Toujours dans l'antre de Laurence Deonna, on peut le dévoiler près de l'ancienne école de chimie, avec sa cheminée. Vous nous accueillez dans votre antre, vous nous parlez de à la fois vos reportages, vos périples et votre expérience avec tous ces gens que vous avez rencontrés, pour lesquels vous avez toujours eu beaucoup à la fois de curiosité et d'empathie. Et là, je vous entraîne dans les anciennes républiques soviétiques que vous avez connues à l'époque du communisme et après leur indépendance.
Effectivement, j'ai visité l'Asie centrale au temps des communistes, tous les pays en le Turkménistan, l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan.
Aussi l'Azerbaïdjan, d'ailleurs.
Pardon ?
Aussi d'abord l'Azerbaïdjan, non, il me semble.
L'Azerbaïdjan aussi, effectivement. Effectivement. Et c'était vraiment follement intéressant, follement beau. Il faut dire une chose, c'est que je peux vous dire que les communistes, ils ont fait moins de désastres dans les choses, les monuments et les églises et les mosquées que les Américains avec leur Coca-Cola et tout ça. J'ai des photos que j'ai prises là-bas où vraiment on a l'impression de voir une miniature ancienne, tellement ça n'avait pas changé. Maintenant, c'est... C'est américanisé, c'est des vieilles tables en bois qui étaient tellement belles. Maintenant, c'est du formica. Non, j'entends. Et malheureusement, le capitalisme sauvage n'a aucun goût. Et je suis contente d'avoir connu cette immense région encore à l'époque où elle n'était pas trop abîmée.
Et qu'est-ce que vous avez observé dans ces pays de l'Asie centrale ?
D'abord, j'ai observé que on n'y connaissait rien, que sur les cartes de géographie, c'était une grosse tache grise. Mais c'est tout.
Ah bah, peut-être Saint-Marcand.
Personne ne savait où c'était. Saint-Marcand, oui, on en parlait parce que c'était romantique. J'ai découvert aussi un monde encore ancien. J'ai découvert aussi un jeune juif. Moi, je prenais l'autobus. Bon, puis je ne savais pas comment il fallait faire. Et lui m'a donné un copec, puis j'ai mis le copec dans le trou, puis c'était comme ça que ça se passait. Puis après, il est descendu avec moi. Il parlait vaguement l'anglais. Et puis, il m'a dit qu'il était juif et qu'il était le fils d'un des plus grands peintres de... Oh, c'était, je ne sais plus si c'était à Tashkent, non, ça devait être Saint-Marcand, enfin bref, du musée. C'est d'ailleurs, il y a des tableaux très beaux dont personne ne parle jamais. Il y a des choses tellement belles. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu veux voir notre cimetière juif ? Alors moi, totalement... lavé de cerveau, que tous les juifs avaient été, disons, molestés. C'est un euphémisme. Je vais au cimetière, on monte la colline, il fait très chaud, et je vois un cimetière de rêve, impeccable, avec les portraits de tout le monde, des petites fontaines, un jardinier, impeccable. Et bien, quand je suis rentrée, le journal de Genève, a publié ça, sa visite. Mais il a été obligé de faire un encadré, pardon, en disant que oui, évidemment, là-bas, c'est comme ça. Mais quand même, les Juifs sont très malheureux et patati, patata. Il ne voulait pas passer l'article autrement.
Donc ça a été un peu
ça parle de soi, pas de soi. Voilà des choses que j'ai vues. Et puis quand je lui ai demandé, est-ce que tu veux aller au bureau Budjan ? Le bureau Budjan, c'était à état juif que Staline avait décidé comme ça, comme d'autres. Ben, on va tous les fourrer là, et puis voilà. Mais ça n'a pas marché du tout. Et quand j'ai demandé à... Je ne sais pas comment il s'appelait, mais enfin, ce garçon, je lui ai demandé, tu aimerais aller au bureau Bijan ? Quoi ? Quelle horreur ! Aller au bureau Bijan, ne me tuerais, etc. Et toujours, cette phrase, mais moi je suis persan. Il parlait persan parfaitement. Il aimait les mosquées, il était juif. Il parlait des mosquées les plus belles au monde d'ailleurs. Il connaissait tous les détails. Il connaissait les chansons persanes. Il connaissait comment vous dire, les poésies. Hafez, il adorait Hafez. Cet homme et toute sa famille, il se sentait profondément persan. Rien à faire, comme il disait, rien à faire avec ces gens qui parlent, paraît-il, un peu d'allemand. Il dit c'est du yiddish. Moi, je sais pas ce que c'est que ce machin. On n'a rien à faire avec eux. Enfin, pour moi, ça a été vraiment très fort, hein.
Comme... Un exemple de syncrétisme.
Ouais, vraiment un exemple incroyable.
Et dans ces républiques d'Asie centrale, vous avez pu observer beaucoup de fois le syncrétisme entre diverses cultures, diverses langues.
Tout à fait, totalement inconnu. Mmh. Et maintenant, j'ai chez moi un ami qui est kirghiz, et je vois quand il est là, mes amis disent que ce qu'il est sympathique, il vient d'où ? Il vient du Kirghizistan. C'est où ? C'est où ? J'ai beaucoup de peine aussi je voudrais faire une exposition parce qu'ils ont, une culture magnifique. Ils ont notamment des costumes, des chapeaux, des bijoux. Mais on me dit que ça n'intéresse personne.
Pourtant.
Cette région, maintenant, elle commence à intéresser les gens à cause de la guerre.
Et à cause des dictatures.
À cause de la guerre. À cause de la... C'est ouais. Tout. De l'Afghanistan qui est à côté et qui nourrit d'ailleurs le peuple kirghiz avec la drogue. Mm-hmm. La drogue passe par le Kirghizistan. Elle traverse...
L'Ouzbékistan.
Tout absolument plus bas. Elle descend et elle traverse toutes les steppes jusqu'aux Pays-Baltes. Ils mettent la drogue sous les chevaux. Ils sont attachés. Jusqu'aux Pays-Baltes. Puis après, ça change. Alors, aux Pays-Baltes, c'est des nouveaux arnaqueurs
qui
parlent anglais.
Aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, exactement. C'est ça. Et moi, je voulais écrire quelque chose là-dessus, mais c'est trop long, c'est trop dangereux. Non, j'ai 85 ans, je ne veux pas. Je finirai à peu près en bon état.
Et par contre, parlons aussi des gens. Là, il y a la drogue. Il y a la culture très ancienne, mais les gens, il y a une hospitalité.
L'hospitalité, elle est magnifique. Et par exemple, à Tashkent, oui, j'étais à Tashkent. C'était le mois de juin cette fois-ci, parce que j'étais plusieurs fois. Et c'était la saison des mariages. Alors, tout Tashkent, c'était pas longtemps par tous les mariages. Et moi, j'allais d'un mariage à l'autre. Et puis je me nourrissais comme ça. Il me faisait des signes, il dansait. Mais quand il y avait dans les grands hôtels, quand il y avait des mariages russes, je ne me laissais même pas entrer. Et là, vous voyez la différence d'hospitalité, de mentalité et tout ça. Et on se demandait qui étaient les sauvages.
Et toujours bien accueillie en tant que femme.
Pardon ?
En tant que femme, toujours très bien accueillie.
Oh, tout à fait, absolument, aucun problème. Aucun problème.
Et vous avez vu l'évolution, donc une fois que les indépendances...
Alors, voilà, justement, je suis retournée pour écrire ce livre que j'ai fait sur le Kazakhstan. Et d'ailleurs, mon éditrice, quand je lui ai dit, écoute, je vais au Kazakhstan, faire un livre sur le Kazakhstan, c'est où le Kazakhstan ? C'est grand comme la moitié de l'Europe, ou bien de toute l'Europe de l'Ouest. Hein, ça vous dit quelque chose ? Bon. Alors, enfin, elle a accepté que j'aille au Kazakhstan, même ça poussait. Et j'ai découvert d'abord que c'est la ligne de séparation du christianisme et de l'islam. Et ça joue un rôle énorme. Le Kazakhstan a 7000 kilomètres de frontière avec la Russie. Et 3000 avec la Chine. Et en fait, on peut beaucoup critiquer aussi le président Nazarbayev, mais il faut aussi penser que ce pays est entre la Chine et la Russie. Alors, on peut dire qu'il est un peu coincé.
Avec une histoire commune très lourde.
Avec, oh, l'histoire, elle n'en finit plus, je veux dire. Je l'ai bien, je crois, résumé dans mon livre, mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est le terrain, c'est d'aller voir les gens. Et alors, quand on sortait de la ville, c'était une pauvreté. Et encore aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Tandis que dans la ville Almaty.
Qui maintenant s'appelle Nour Sultan.
Qui s'appelle Almaty maintenant. Ah non, c'est Astana, c'est Astana qui s'appelle Nour
Sultan. Nour,
Astana. Ah. C'est la capitale. Mais c'est vrai qu'il a voulu, avant de partir, donner son prénom. Mais il n'a pas vraiment parti, il se cache dans un coin pour emmerder. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Oui, que dans la capitale.
Oui, dans la capitale, alors, des cinémas américains, tout américains, des habits, mais vraiment...
La malbouffe américaine.
Vraiment, oui, au sein de tout ça, la malbouffe. Et puis, vous faites quelques kilomètres et vous arrivez dans un village qui a l'air de n'avoir pas changé depuis Tolstoï. Les maisons sont toujours les maisons, il y a toujours des oies qui pataugent dans l'eau, il y a toujours des toilettes hors des maisons, et puis le plus triste alors, c'est tout ce qu'on a enlevé, il n'y a plus d'école dans la plupart des villages. Il n'y a plus de petites cliniques comme il y avait autrefois.
Ou des dispensaires, oui.
Il y avait la maison des artistes. Il y avait tout ça a disparu. Il n'y a plus rien.
Et donc,
parce que ça rapporte rien.
Mais malgré tout, la culture d'origine...
Ça rapporte rien, donc on les enlève. Pour les artistes, ça a été un choc, parce que... D'ailleurs, il y avait des très belles choses, ces artistes. Et puis, il y avait le Dom Kino. Le Dom Kino, qui était le cinéma où on projetait les films... soviétiques et kazakhs, etc., dont certains étaient magnifiques. Ben maintenant, qu'est-ce que c'est devenu ? Un casino où il y a des filles à moitié nues. Voilà. Ça a devenu un casino. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont fait des progrès, à mon avis. Ils ont perdu beaucoup de leur charme. Et en même temps, ils n'ont rien acquis, je veux dire, à part les oligarques dont on parle beaucoup de ces jours-ci dans les journaux. Le peuple n'a rien. Le peuple n'a rien. Parce que, et je crois que je vous assure, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui sont allés jusqu'au fin fond des steppes pour aller voir comment ils vivaient. Et ben, je vous assure qu'il fait mal au cœur. Et là, l'IRA a osé dénoncer. L'IRA, c'est cette journaliste kazakh
dont la fille a été torturée.
Dont la fille a été torturée, et le frère aussi. Eh bien, je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Alors, il y a eu des manifestations récemment, mais ça ne change strictement rien. Et maintenant que Poutine a fait son numéro en Ukraine, les Kazakhs...
ça l'attrape.
Il n'y a rien. Rien de plus, ni de moins. On ne sait pas ce que ce fou a dans la tête. Et l'Ira, qui est donc kazakh et journaliste,
qui est réfugié maintenant,
qui est réfugié à Genève, grâce à votre servante, me dit, tous les jours, j'ai des téléphones de journalistes kazakhs exilés à New York, en Ukraine, à Odessa, etc. Tous les jours. Mais il y a plus de Russes tués que d'Ukrainiens. C'est ça le comble. Et ils n'apprennent pas grand-chose, parce que personne ne sait ce que ce bonhomme a dans la tête. Donc, moi, j'ai énormément aimé l'Asie centrale. Et je suis heureuse de l'avoir connue encore du temps des communistes.
Où là, la culture d'origine était préservée.
Absolument. Absolument. Et dans sa langue, dans ta langue, tes livres dans ta langue, tes danses dans ta langue. Le soir, je suis allée voir avec mon nouvel admirateur, ce jeune juif. Il m'a emmené voir dans une ancienne mosquée un spectacle avec tout le charme et la beauté des siècles passés. Mais c'était magnifique. Magnifique. Et moi, ce qui m'a tellement touchée, je crois que je l'ai écrit, c'est que pendant que l'orchestre jouait, tout à coup, on a entendu un petit oiseau qui était dans un trou dans le mur. Et ce garçon me dit, écoutez-le, c'est le petit oiseau de nos... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'on a passé des... Oh, je ne trouve pas le mot. De nos... oiseaux.
De nos steppes.
De nos gravures.
Ah, de nos gravures.
De nos gravures persanes. Ça, vous pouvez peut-être l'effacer.
Parce oui.
C'est le petit oiseau de nos gravures persanes. Écoutez bien. Non, mais c'était tellement touchant. J'ai vécu du moment-là, d'une poésie...
D'une intensité.
Magnifique, magnifique.
Vous nous avez un peu entraînés en Asie centrale, Laurence Deona, et est-ce qu'on peut partir en Russie, vu tout ce qui se passe actuellement, malheureusement, en Ukraine? Les Russes, vous les avez aussi côtoyés? Le peuple russe?
Oui, mais je le connais mal. Je connais mal la Russie. J'y étais, mais à mon avis, je ne connais pas la main de la Russie. Tout ce que je sais, c'est que la Russie, c'est la Russie, et que la Russie, c'est la Russie, et que la Russie ne changera pas. Elle est toujours la même.
Voilà. Donc on
ne
peut que constater actuellement ce qui se passe.
C'est dans la ligne historique de cette espèce de voracité pour avoir un empire.
Justement, c'était un empire incroyable à l'époque des Soviétiques, tout ce que vous avez parcouru, quand vous parlez des frontières du Kazakhstan, par exemple, avec la Russie et avec la Chine, c'est une immensité qu'on a la peine à se représenter.
Non. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais d'après mon ami kazakh, le
L'IRA.
Kazakhstan, mon ami kazakh, l'Iran, vas-y, tu vois. D'après elle, le Kazakhstan va rester va être prisonnier. Va plus bouger. Et il y a les Afghans qui arrivent en plus. Et alors, elle me raconte que Poutine, depuis quelques années, a décidé de faire une union des États indépendants de l'Asie centrale. C'est drôle, il y met la Russie.
Comment en Tchétchénie
Voilà. Il
ou en Géorgie?
y met la Russie dans cette union. On ne comprend pas très bien ce qu'elle fait là, mais enfin. Il crée la division pour régner. C'est vieux comme le monde. C'est certaines de ces régions qui n'étaient pas du tout en guerre ou les unes contre les autres, eh bien, tout à coup, elles commencent à s'entretuer. Alors les Russes arrivent pour mettre de l'ordre.
En sauveur.
Et voilà, et on y est. C'est pas compliqué.
Machiavel.
Voilà, Machiavel, oui. Ouais. Donc pour l'instant, je sais pas, moi je connais mal la Russie, mais tout ce que je sais, mon oncle adoré, qui était le prince Kourakine, son palais était à Kiev, m'a toujours dit, Madmadouchka, la Russie, c'est la Russie.
Point,
Point.
point. Alors, vous avez connu cette période magnifique, vous avez pu traverser tous ces pays, une période dorée qui est peut-être révolue. Quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement? Vous avez dit en début d'entretien, on est en train de détruire toute la beauté du monde.
Oui, mais partout sur la planète, où il y a des guerres, on détruit des monuments, des architectures millénaires. C'est un énorme massacre de la beauté. Et sans beauté, je pense qu'on ne peut pas vivre. Vivre dans la vulgarité comme on vit maintenant. Il ne faut pas croire que ça n'influence pas les esprits. Et je pense que ces gens ne se rendent pas compte. Quelquefois, je vois des choses d'une telle laideur, une telle vulgarité. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Mais je pense que quand on est élevé dedans, on ne voit pas. Ou plus. Je sais pas. Mais vous savez, je suis vieille. Hein? Alors.
Mais jeune d'esprit,
Mais de.
pétillante.
Merci ma chérie, c'est gentil. Je suis vieille peut-être d'esprit, mais je ne peux plus
J'ai
supporter
dit jeune d'esprit.
qu'on détruise ce qui a été fait avec amour aussi. Parce que par exemple, prenez cela, ces maisons extraordinaires. Mais c'est l'amour des gens, c'est là. C'est leur amour. C'est pas comme ici où vous achetez une villa et puis vous la louez à quelqu'un ou vous en achetez une autre. Et chaque année, on les repeint, on les refait. C'est leur amour. Et on est en train de leur détruire leur amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est affreux.
Avec toutes vos expériences, vos rencontres, qui sont liées toujours à votre curiosité, mais aussi votre empathie, aussi liées à votre histoire personnelle, les tragédies qui ont parcouru votre vie, est-ce que vous avez des conseils à donner à la jeune génération en tant que femme? Parce que vous avez pu à la fois vous libérer de votre carcan éducationnel et vous avez osé sans doute franchir des barrières qui paraissaient peut-être impossibles à l'époque.
Oui, attends, oui, ouais. À l'époque, j'étais infréquentable.
Comme Ella Maillard, qui est votre amie, qui était votre amie.
C'était... Elle était assise là, vous voyez, la dernière fois que je l'ai vue. Et puis, elle était furieuse parce que on avait imprimé son livre avec plein d'erreurs. Elle était folle de rage. Au lieu de prendre l'impression définitive, ils avaient pris la deuxième épreuve où elle avait corrigé à la main. Oh non, mais je... Parce qu'à la fin de sa vie, elle était devenue très tactile, alors que quand je l'ai connue, elle était comme ça. Pardon. Et elle me dit, tu sais, mon éditeur me dit que je devrais écrire ma vie. Je lui dis, mais ta vie, elle est dans tes livres. Puis elle dit, tu crois? Et tous mes amants, alors? Je dis, bon, alors raconte-moi. Alors elle me dit, il y avait ce Français, là. Écoute, j'ai oublié son nom. Et puis, il y avait cet Hollandais. Mais c'est affreux, j'ai oublié leur nom. Et j'ai dit, tu vois, il y a là, tu sais, il faut abandonner. Moi aussi, je les ai oubliés. Et puis, je suis plus jeune que toi. Ah, tu les oublies aussi? Ben oui, qu'est-ce que tu veux, on les oublie. C'est comme ça. Ça s'appelle un amour de passage.
Mais vous n'avez pas oublié l'essentiel, c'est-à-dire l'altérité, les gens vers lesquels vous êtes allé.
Non, justement.
Tous ces gens-là, ils sont dans votre mémoire.
C'est... Dans le reportage, il faut vraiment avoir un don d'empathie. Parce que si vous ne l'avez pas, restez assis sur votre chaise. Il faut ravauder des chaussettes, ce que je ne sais pas faire d'ailleurs. Non. C'est très difficile parce que tout à coup, vous êtes plongé.
Excusez-moi. C'est pas grave. Vous êtes tactile.
Vous êtes plongé dans un monde que vous ne connaissez pas, mmh. avec des règles que vous ne connaissez pas. Mmh. Et c'est pas facile. Un romancier, lui, bon, il prend un peu plus ou moins les choses qu'il connaît, son monde. Nous, on est là, pouf!
Propulsé.
Propulsé, là. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'imagination de l'autre, de ce qu'il ressent. Et c'est pas facile. On peut les choquer sans s'en rendre compte. Mais on peut aussi avoir des moments absolument hilarants en Iran. On me dit, vous allez voir Madame Talagani. Madame Talagani est la fille de ce qu'on appelait du temps du chat l'ayatollah rouge, parce qu'il était à gauche, très à gauche, tellement à gauche que sa fille a été arrêtée et que la pauvre, elle a dû accoucher dans sa cellule. Alors quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il l'a sorti de sa cellule et il lui a donné ce titre. Elle était l'ayatollah féminin, on pourrait dire. Et elle avait des gardes armés comme les autres. Alors on me dit, ouais, c'est pour être Mme Talegani, vous allez l'interviewer. Alors on m'emmène dans un ancien palais du chat, magnifique, avec, vous savez, partout au plafond des verres. Des mosaïques en verre, du verre. C'est ravissant. Il y avait une espèce de podium. Et je vois une dame en tchador, mais avec le visage découvert, à gauche et à droite, deux types avec une mitraillette.
Garde enfin, du corps.
Qui la garde. Et on m'amène devant elle. Vida, toujours la fidèle Vida, est là pour traduire. Et elle demande, Madame Talegani demande à Vida, elle vient d'où? Alors Vida dit, elle vient de Suisse. Et elle se tourne vers moi, Madame Talegani, et elle m'a dit, mais alors vous connaissez Madame de Montmolin? J'ai dit, je crois que je... Et cette Madame Talegani avait acheté et fait traduire le livre de Madame de Montmolin sur les droits des femmes en Suisse. Et elle se lève, elle balaye le plancher avec tous ses voiles, elle me montre un rayon et il y avait quelques livres, dont des livres d'autres pays, comment les femmes vivaient et quels droits elles avaient. Chapeau.
Chapeau.
Et puis elle me dit, est-ce que vous êtes content? Vous êtes contente ici en Iran? Je dis, oh oui, les gens sont très gentils. C'est vrai, les gens sont extrêmement gentils, mais vous comprenez, ce voile, moi j'en ai... J'ai fait comme ça, jusque-là. Alors, Vida me dit, est-ce que je traduis? Je dis, oui, je traduis. Moi, elle dit qu'elle en a jusque-là de ce voile.
Jusqu'au front, oui.
Alors, l'autre, Talegani, dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le Coran, blablabla. 99 fois dans le Coran, je n'ai pas été comptée. Mm-hmm. Bref, alors je lui ai dit, vous savez, Madame Talegani, quand vous viendrez en Suisse, je ne vais pas vous imposer un bikini. Alors, Vida me dit, ah, ça, je ne traduis pas. Ça, je ne traduis pas.
Toujours votre culot.
Mais elle ne l'a pas traduit.
Par contre, là, on voit dans vos propos, dans ce que vous relatez de cette anecdote, que vous êtes toujours féministe. La cause des femmes est très importante. Récemment, on voit dans le film où vous étiez scandalisée de savoir qu'en Pologne, le droit à l'avortement est bafoué.
C'est un folle. J'ai même vu à Varsovie sur un mur écrit « L'avortement, c'est comme Hitler ». Quand on en arrive là, c'est affreux. Non, ce qui se passe aussi en Europe de l'Est n'est pas très rassurant non plus. Et je dois dire que en Hongrie, j'étais en Hongrie et j'ai eu un malaise. Un nationalisme tellement...
Virulent.
Oui, tellement virulent que c'en est presque agressif, je veux dire. Je ne suis pas sentie à l'aise, voilà. Mais on va voir comment ça va tourner.
Donc vos messages, ou en tout cas aux femmes jeunes de cette génération, c'est qu'elles n'oublient pas les acquis des générations précédentes.
Absolument. Avez... Mais je leur dis toujours ça quand elles viennent vers moi. Gna. Je leur dis, dites donc, vous croyez que c'est sorti là comme un chou? Ce sont des années de lutte, d'humiliation, de solitude, de maladie, de solitude, surtout. De solitude,
parce que les femmes ne sont pas écoutées ni entendues.
Oui, entre autres. Et puis, quand on ose faire certaines choses ou dire certaines choses, eh bien, on est seul. On est seul. Les gens applaudissent, mais après, ils oublient. Puis vous êtes seul en face de vous-même. Puis tout à coup, vous recevez des lettres bouleversantes. J'avais fait un article, j'avais une chronique autrefois dans la tribu. J'avais écrit sur l'avortement. J'ai reçu des lettres. de femmes dans les 70-80, dont la plupart venaient du Valais ou de Fribourg, enfin des pays, des cantons catholiques. Je les ai gardées. C'est bouleversant. Merci, madame. Merci pour ce que vous avez écrit. J'ai dû avorter sur la table de la cuisine. J'ai perdu mon corps et mon cœur dans cette opération. Enfin, moi, je m'attendais, je vous dis franchement, après cet article, à des lettres plutôt virulentes, mais aucune. Aucune. Et puis la plus touchante, c'est celle qui disait je termine ma lettre, mais je n'ose pas encore signer de mon nom, excusez-moi. Alors vous savez, quand vous recevez ça, vous dites, oh là là, ce pays, il a encore à faire. Et puis, alors à ce moment-là, ressort les clivages des religions. C'est fou, c'est impressionnant. Ouais.
Merci Laurence Deonna
Je vous en
de
prie.
nous avoir consacré tout votre temps dans votre antre, qui est toujours ensoleillé. Et merci en tout cas de nous avoir parlé de toutes ces expériences. On rappelle que Mémoires ébouriffées était sorti en 2014. Vous connaissiez déjà Nasser Bakhti depuis 2012. Et dès qu'il y a eu cet ouvrage, il a voulu faire ce film qui est actuellement sur les écrans, Laurence Deonna libre.
Oui, depuis le 16, il sera
Voilà.
sur les écrans.
Et vous avez eu une soirée qui affichait complet au
Ah, c'était
City. Vous
incroyable.
avez refusé des personnes
Oui.
tellement. Voilà.
Ça, c'était. Encore, c'était le 8 mars où il y avait des choses, des événements partout. Et c'était. Et il y avait justement des exilées syriennes. Et quand je leur ai parlé un peu en arabe, elles étaient tellement contentes. Ça m'a beaucoup touchée. Mais qu'est-ce qu'on a boulonné alors? Mais vous verrez que vous avez remarqué que c'est un film qu'on peut promener parce qu'il est absolument neutre. Il dit les horreurs, mais il ne dit pas le nom d'un pays, rien.
Et il est intergénérationnel, il peut toucher
Il
plusieurs
est
générations.
intergénérationnel, il est. Voilà. Mais alors, il y aura ce que Nasser appelle un quoi?
Bonus.
Un bonus, c'est la conversation que j'ai avec l'ambassadeur Meyrem Seyer sur le protestantisme. Il m'a dit, ça, je le garde.
En tout cas, merci pour votre accueil, Laurence Léonard. Merci pour vos mémoires.
Et merci pour vos tulipes.
Les tulipes, pas l'hôtel de Téhéran. Hein.
Non, pas l'hôtel de Téhéran, bien
et
dit.
merci pour votre à la fois curiosité, votre pétillance et votre empathie. Merci pour tout.
Voilà, alors on pourra l'entendre quand?